Interview.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdivois pour l'interview, émission que vous pouvez aussi écouter sur le site internet www.rdwa.fr ou alors sur les ondes FM en 107.5. Au studio aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Messaline, bonjour.
Bonjour.
De Laïda. Et nous avons aussi Pascal au téléphone.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous les auditeurs.
Alors, nous sommes ici pour parler du compteur Linky qui revient en actualité, notamment suite à un changement de propriété de certains appareillages électriques à partir du 20 novembre, je crois. Il y a déjà ça. Mais aussi, quelles sont les nouvelles possibilités pour se défendre aussi de l'installation contre l'installation des compteurs Linky par des prestataires qui travaillent pour Enedis.
Bon, alors, en fait, là, dans l'idée, c'est que là, effectivement, Enedis est en train de prévenir tout le monde que les sociétés mandatées, les sociétés prestataires de services vont venir à partir du mois de novembre pour essayer de changer nos compteurs actuels par des compteurs Linky. Et effectivement, en parallèle, ce que tu évoquais, Yves, c'est que en mars 2019, à travers la loi Elan, il y a des choses qui ont été votées, annoncées, et notamment ce qui concerne le Linky et la propriété. Ce qui concerne les colonnes montantes, en gros, des immeubles, des copropriétés. Sans refus des propriétaires que ces colonnes, le 23 novembre 2020, deviennent la propriété d'Enedis, s'il n'y a pas de refus par courrier de la part des propriétaires, alors effectivement ces colonnes montantes, donc tout ce lieu dans l'immeuble, deviendra propriété d'Enedis.
Pascal ?
Oui, alors je confirme les propos de Messaline. Alors sachant que il faut quand même distinguer deux choses. On a cette problématique de l'attribution des colonnes montantes dans le cadre de la loi Elan à Enedis, et puis on a aussi effectivement le déploiement du compteur Linky qui a été lancé maintenant depuis les années 2015. Dans la Drôme, il est arrivé fin 2017. On a commencé, en fait, le déploiement a d'abord été initié sur l'agglomération valentinoise principalement, voilà. Et donc, ce qu'il faut bien noter effectivement, c'est que on a aujourd'hui à la fois le déploiement Linky qui continue. Alors bien évidemment, le déploiement a marqué une petite pause lors de la première vague de Covid. Ça redémarre plus belle. Donc dans le cadre pour ne pas reparler du même terme, mais on redémarre sur une deuxième vague, vague de pause. Et en parallèle de ça, comme le dit la précité Messaline, on a l'attribution donc des colonnes montantes à Enedis, sous réserve bien évidemment que les copropriétaires d'immeubles ne se positionnent pas en défaveur de ce texte. C'est-à-dire que il faut bien que vos auditeurs comprennent que si on ne fait rien, Enedis devient devient d'office et gratuitement propriétaire des colonnes montantes. Si par contre l'Assemblée générale de copropriétaires s'y oppose, les colonnes montantes restent effectivement dans les prérogatives, restent propriété collective de la copropriété. Alors, et ce sur quoi effectivement il faut se méfier, alors effectivement c'est les compteurs Linky ne sont pas posés dans les colonnes montantes, mais par contre effectivement le fait, et là ça permet de rebondir sur autre chose, le fait que on attribue à Enedis effectivement sauf refus de la part des copropriétaires les colonnes montantes, va permettre à Enedis bien évidemment d'y faire ce qu'ils veulent y faire. Et là, je ferai un pont avec le déploiement de la 5G, puisqu'effectivement, ce qui est intéressant pour Enedis dans le cadre de ses colonnes montantes, c'est que il va pouvoir, entre guillemets, y autoriser, moyennant bien évidemment finance, la pose d'émetteurs rapprochés, puisqu'on sait que la 5G a besoin d'antennes, d'utiliser des pico-antennes. Et effectivement, Enedis trouvera une rémunération par ce biais-là, étant propriétaire des colonnes montantes, libre à lui de d'y faire installer effectivement tout type d'appareils et de louer en fait les colonnes montantes à des opérateurs téléphonie mobile. Voilà.
Je voulais une précision, vous parliez de copropriété, mais un propriétaire d'immeuble disposant de plusieurs logements, est-ce que ça rentre en compte aussi de cette modification de propriété ?
Ben, effectivement, alors s'il n'y a qu'un seul propriétaire, effectivement, si le propriétaire, entre guillemets, ne fait rien et ne dit rien, et ben effectivement... Enedis, hein, comme dans le cas d'une copropriété, Enedis se trouvera d'office propriétaire des colonnes montantes sous réserve, bien évidemment, qu'elles existent. Et je pense que c'est important aussi de préciser la notion de colonne montante. En fait, la colonne montante d'une installation, enfin d'un immeuble, voilà, c'est, on va dire, tout ce qui est en aval, tout ce qui va se situer en aval des disjoncteurs. C'est-à-dire que dans un immeuble, je vous donne un exemple. Dans un immeuble, vous avez la porte d'entrée, d'accord. À 10 mètres de cette porte d'entrée, vous avez les compteurs de différents logements, des locataires. La colonne montante, c'est ce qu'il y a entre le réseau et l'arrivée sur les disjoncteurs des locataires. Donc, dans certains cas, cette colonne montante, si vous voulez, elle est réduite, elle est vraiment réduite. Et bon, il n'y a pas trop de danger, on va dire, à ce qu'on y vienne y installer effectivement des antennes ou des appareils dévolus aux nouvelles technologies du numérique. Par contre, effectivement, dans des immeubles, on va dire plus classiques, où vous avez de manière séparée le réseau de gaz, le réseau d'eau, le réseau courant faible, courant fort, situé sur plusieurs étages, là, la colonne montante, effectivement, elle revêt un trajet beaucoup plus long au niveau de l'immeuble et effectivement elle est bien située en aval des disjoncteurs d'abonnés, puisqu'effectivement dans ces cas-là les disjoncteurs sont à l'intérieur des logements. Voilà.
Alors peut-être que ce qui est important à dire d'une façon très pragmatique, très rapide, c'est que il y a vraiment juste une lettre de refus à envoyer à Enedis de cette mise à disposition à Enedis. Il y a juste une lettre de refus à dire non, en fait, je veux rester propriétaire de cette partie-là de mon immeuble. Donc c'est très très simple. Mais on est vraiment sur un fonctionnement où voilà, on fait passer une loi et un an avant et un an et demi avant, et puis on laisse glisser quoi, pour que petit à petit ça devienne la propriété d'Enedis.
Tu peux préciser justement les modalités par courrier, comment ça se passe et à quelle adresse?
Pascal pourra préciser, mais on parle des colonnes montantes. Pour les colonnes montantes, mais comme pour le reste, d'ailleurs, déjà dans un premier temps, c'est juste envoyer un courrier en lettre recommandée avec accusé de réception à Enedis de refus, en fait, de volonté de rester propriétaire de toutes les parties de l'immeuble. Parce que voilà. Et donc, petite précision sur les lettres recommandées pour ceux qui ne seraient pas encore tout à fait au fait de ce fonctionnement. Une des petites choses quand même à penser, c'est quand on envoie un courrier en lettres recommandées avec accusé de réception, l'important c'est soit de coller directement le courrier à l'extérieur, soit de le mettre dans une enveloppe à fenêtre pour ne pas se retrouver face à une entreprise, ou enfin à celui qui au destinataire, qui va dire « mais il n'y avait pas de courrier dans cette lettre ». Voilà, c'est des petites précisions.
Mais par exemple, dans mon immeuble, il y a les compteurs qui sont sur un grand panneau, et juste à côté se trouvent les disjoncteurs pour chaque logement. Donc là, la course de la colonne montante est plutôt réduite.
Voilà, alors la course de la colonne est plutôt réduite. Et par contre, effectivement, alors pour revenir au déploiement du compteur Linky, il est aussi également, donc comme l'a souligné Métaline, bon, il y a une lettre effectivement pour refuser l'attribution des colonnes montantes, mais tout usager et on les engage pour ceux qui le souhaitent, bien évidemment, hein, à le faire. Tout usager peut également refuser le compteur Linky. Et pour ce faire, la première action à faire, ben justement, c'est de faire un courrier recommandé avec l'accusé réception également à la SANEDIS, hein, en son siège social à Paris La Défense. Ça, c'est une première action, d'accord. Alors, autant pour les colonnes montantes, ben, la lettre, effectivement, elle est là, elle est inscrite, et si effectivement, comme on l'a précisé, il y a, alors dans le cas d'une copropriété, si il y a une majorité de refus, ben, les colonnes montantes ne seront pas attribuées, hein, d'accord. Autant pour le compteur Linky, c'est quand même un peu plus compliqué, sachant que sur la problématique du compteur, malgré les lettres de refus, on s'est aperçu, bien évidemment, hein, comme je vous l'ai dit, on a vécu le déploiement sur l'agglomération valentinoise, et effectivement, il faut savoir que la lettre n'est pas suffisante. C'est-à-dire que le sous-traitant qui se trouve face à une lettre, à une copie de lettre avec un accusé réception recommandé, eh ben effectivement, ça le gêne pas de poser un compteur. Et donc, le premier geste à faire, effectivement, le premier signe fort, je confirme et je persiste, il faut que les gens envoient le courrier. Et la deuxième chose, pour être sûr, pour une personne qui ne souhaite pas avoir le compteur, de ne pas avoir de compteur Linky, et notamment dans des espaces collectives, c'est d'effectuer une protection, alors individuelle dans la majeure partie des cas, hein, parce que si vous avez plusieurs usagers dans un immeuble et qu'il y en a un qui veut le Linky et que vous ne le voulez pas, il s'agit bien de protéger individuellement son compteur. Et donc là, ben, je pense que Messaline pourra en parler un petit peu. Bon, il existe des possibilités justement d'empêcher effectivement la dépose de l'ancien compteur par les sous-traitants, d'accord, au moyen de contraintes physiques, hein, ce qu'on va appeler, on va appeler ça un baraudage, hein, qui peut être posé sur le compteur et qui empêchera bien évidemment aux sous-traitants de déposer l'ancien compteur et de poser le compteur Linky. Ouais.
Alors du coup, je me permets de réinsister là-dessus parce qu'on a pu le constater depuis des années. Et là, effectivement, l'AIDA également l'a constaté. Les gens nous disent en permanence « Oui, mais je suis locataire, je n'ai pas le droit... » Ah si, tout à fait. Locataire, vous êtes usager du compteur, c'est à vous de décider s'il y a le compteur doit être changé, et vous êtes totalement en droit de le protéger par divers biais, que ce soit coffrage, que ce soit cadenas, etc. Donc l'AIDA qui est à côté de moi a pu le constater parce que dans son immeuble, effectivement, il y a eu... un présage que Linky, que les sociétés mandatées pour changer les compteurs allaient venir. Donc nous nous sommes tous mobilisés pour garder l'immeuble. Il y a également eu des coffrages qui ont été faits sur les compteurs. Et l'AIDA a fait une permanence dans la rue et a constaté aussi que voilà, les gens en permanence se disent oui, mais on n'a pas de moyens, on ne peut rien, on n'a pas le droit. Et si, en tant qu'usager, nous avons le droit, hein, tu peux nous confirmer, l'AIDA, de ce que tu as pu avoir comme retour.
Ouais, c'est ça. Ça part bien avant. C'est que beaucoup de personnes pensaient que depuis un an, en fait, les mairies, leur refus était considéré comme illégal. Donc, du coup, beaucoup de gens pensaient que comme les mairies, c'était illégal, et ben, citoyens aussi pouvaient pas refuser. Donc il y a eu beaucoup, ça. Ouais. La deuxième chose, c'est même si on est locataire en fait de logements sociaux, médicaux, propriétaires aussi, tout humain a le droit de refuser. Et voilà.
Effectivement, je me permets de rajouter que c'est constitutionnel en fait. En gros, un appareil connecté, c'est à nous de décider si on veut d'un appareil connecté ou pas.
En quoi consiste ta présence lors de peut-être une probable installation de compteur? Quelles sont les actions que tu pourrais utiliser?
L'action, je l'ai pas voulu individuelle par rapport à la fermeture de mon compteur. C'est que comme j'habite un immeuble, voilà, c'est parti de là. C'est qu'en fait, un électricien est arrivé, enfin, un agent d'Inedis est arrivé chez moi dans l'immeuble pour relever le compteur, mon relevé de compteur. Et en fait, par message en amont, il me disait que c'était pas nécessaire que je sois là. Et en fait, moi, j'avais souhaité être là. Donc, du coup, j'ai tout fait pour être là. Et effectivement, il m'a redit que ce n'était pas nécessaire d'être là. Et du coup, comme il y a déjà un compteur Linky qui est installé dans les 15 qu'on a dans l'immeuble, et même le propriétaire, lui, il ne savait même pas, c'est pas lui qui l'a installé, il ne sait même pas comment il est arrivé là, mais apparemment, ça faisait déjà 2 ans qu'il était posé. Donc du coup, j'ai croisé des personnes qui avaient monté déjà il y a 4 ans sur 10 dans le Divois, Stop Linky Divois, pour leur poser des questions et m'informer. Et du coup, j'avais envie un peu de reprendre de relancer un peu cette question et puis ce mouvement. Et de voir tous mes voisins pour leur expliquer la situation, comme quoi, les Linky sont en train de s'installer. Et effectivement, pile poil, la voisine du dessus qui venait d'emménager avait reçu un message comme quoi ils allaient passer pour relever encore un numéro, ils s'étaient trompés, je ne sais pas trop quoi. Et du coup, je suis retournée voir les locataires pour leur dire « Est-ce que vous ne voulez pas qu'on ferme tous nos compteurs ?» Beaucoup n'avaient pas le temps. Bon, moi, j'avais du temps, donc je leur ai dit « Faites-moi confiance ». Je me charge d'organiser
l'installation pour la protection des compteurs. Ouais.
Ouais, tout à fait. Et du coup, ça a pris beaucoup de temps, mais ça s'est fait. Et puis, ça a été l'occasion d'expliquer à certains locataires qui n'étaient pas forcément contre au départ. Mais voilà, après, ça s'est fait facilement. Et du coup, ça s'est un peu passé comme ça, en fait. Et voilà.
Pascal, depuis environ 3 semaines, j'ai reçu par SMS de la part d'Enedis des problèmes sur mon installation électrique dus à un disjoncteur qui semble hors convention maintenant, puisqu'il propose de le changer. Est-ce que c'est du fait d'un compteur Linky que je possède, hélas, et qui, en fait, peut être nocif pour une installation électrique classique ou ancienne?
Alors, si ces messages sont reçus alors que le Linky est déjà posé, il faut savoir qu'il y a ce type de communication qui existe aujourd'hui. Hein, on a beaucoup de gens qui reviennent vers nous. Alors quand je dis nous, c'est faut savoir que moi je suis un des porte-parole de l'association Stop Linky dans l'Ardèche. Et on a beaucoup de gens qui reviennent vers nous justement pour nous dire j'ai reçu un courrier qui me parle d'un disjoncteur qui pourrait être défaillant. Ça interpelle un petit peu les gens. Donc pour revenir à ta question, si le compteur est déjà installé, je confirme que ce qui peut se produire, et ça on a déjà eu le cas, il y a certains types de disjoncteurs qu'on appelle des disjoncteurs sélectifs qui ont, on va va dire, de l'électronique embarquée à l'intérieur. Il faut savoir que quand le compteur Linky est déployé, bien évidemment, pour sa communication, on utilise ce qu'on appelle le courant porteur en ligne. Cette technologie contribue à polluer l'électricité. Et donc, tous les systèmes électroniques peuvent être perturbés, voire mis en défaut, hein, d'accord, par ce courant porteur en ligne. Puisque le courant porteur en ligne génère, on va dire, une pollution électromagnétique qui est très préjudiciable à tout ce qui est électronique. Et donc, certains types de disjoncteurs, et donc en l'occurrence les disjoncteurs qu'on appelle sélectifs, peuvent avoir leur dispositif qui a été opéré par la présence de CPL. Donc, effectivement, quand je précise bien les choses, quand le compteur Linky est posé, moi ce que je conseille à l'ensemble de vos auditeurs, c'est bien évidemment de faire le test qui est demandé. Alors, par le SMS, il vous indique effectivement la manipulation. Il y a des gens qui reçoivent un courrier et on leur explique simplement d'utiliser le bouton test du disjoncteur. Si en appuyant sur le bouton test du disjoncteur, ça disjoncte, on va considérer que le disjoncteur n'est pas obéré et qu'il fonctionne. Par contre, il y a d'autres cas. Il y a d'autres cas où effectivement les gens, ils reçoivent pas des SMS, ils reçoivent des lettres qui leur disent que à la suite d'une remontée d'informations d'un de leurs fournisseurs, Enedis les informe d'une probabilité à ce que le disjoncteur ne fonctionne pas correctement. Et là, je précise bien, il n'y a pas de compteur Linky encore d'installé. Donc, pour nous, cette action-là, c'est un petit peu une tentative, si vous voulez, pour Enedis, de pouvoir quand même s'introduire chez les gens. Pourquoi ? Vous avez la personne qui va se dire, moi on m'a dit il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, j'appuie, et qui vont faire ce qu'on appelle l'autotest, tout seul comme des grands. Et puis il y a des gens qui vont dire, voilà, moi l'électricité j'y touche pas. Et qu'est-ce qu'ils font ces gens-là ? Eh ben, ils ont un doute, ils ont une crainte, ils appellent Enedis. Et là malheureusement, le piège se referme. Parce que je peux vous dire que si Enedis débarque chez vous, pour vérifier le disjoncteur, la première chose que va faire le technicien, c'est d'abord de poser le compteur Linky et après éventuellement de contrôler, enfin même pas éventuellement, après de contrôler le disjoncteur. Et donc, quand le compteur Linky est pas installé et que on a absolument pas de risque de suspicion de dysfonctionnement généré par le CPL de la présence d'un Linky, d'accord? On estime effectivement qu'il y a un petit peu ruse d'Enedis, et effectivement, alors sur l'ensemble des lettres envoyées aujourd'hui, je vous dis carrément, on ne sait pas combien de lettres ont été envoyées de ce type, mais effectivement, dans ces cas-là, on peut très bien avoir cette problématique de la personne qui ne va pas se sentir en capacité de faire le test, qui va avoir peur de mal faire. Et comme on lui parle de sécurité et de choses comme ça, et elle va dire écoutez, à ce moment-là, je prends rendez-vous, envoyez-moi un technicien. Et là, effectivement, le piège se referme, le technicien vient, il pose effectivement d'abord le compteur, il change le compteur, et après, il s'occupe du disjoncteur. Donc, moi, je dis méfiance avant tout, et surtout si vous faites, si vos auditeurs font intervenir Enedis dans ce cas-là. Voilà.
Tout ce qui est en amont du compteur et la propriété d'EDF ou Enedis, on est d'accord. Mais je voulais préciser ma question, c'est qu'à partir du compteur Linky, par exemple, ou d'un compteur classique, qu'est-ce qui appartient encore à EDF ou Enedis ?
Alors, il faut savoir que, en fait, il n'y a plus rien qui appartient à EDF. Il faut savoir que tous les équipements qu'on utilise, qu'on va utiliser dans les habitations, dans l'usage domestique ou même en industrie, vous avez effectivement le compteur, donc le système de comptage, d'accord. Vous avez le disjoncteur, d'accord. Il faut savoir que ces deux dispositifs-là, donc le compteur et le disjoncteur, qui sont, on va dire, en amont de l'installation, du tableau où il y a vos fusibles, on va dire, tous ces dispositifs-là sont sous la responsabilité d'Enedis, donc c'est le distributeur qui en a l'entretien, la charge d'entretien et de fonctionnement, on va dire. Et par contre, en termes de propriété, il faut savoir que l'ensemble de ces dispositifs, et notamment le compteur, appartient alors non plus aux collectivités locales, hein, puisqu'il y a eu gros débat là-dessus. Effectivement, il y a jusqu'à il y a quelques années en arrière, tout ce qui était électricité était géré par les communes. Et on va dire les postes de transformation, les compteurs, etc. appartenaient aux communes. Et bon, les communes, à un moment donné, elles ont dit, mais nous, on n'est pas des spécialistes. Ça devient très compliqué pour nous. Et il faut savoir que les communes ont transféré la propriété et la compétence de l'électricité au syndicat départemental d'électricité de la Drôme. Puisque là, on est dans la Drôme, hein, et donc cet organisme-là, s'appelle le SDED, hein, S-D-E-D, et donc il faut savoir que les dispositifs n'appartiennent, donc on vient d'évoquer, c'est-à-dire compteurs, disjoncteurs, relais divers et variés, heures creuseurs pleines, etc., appartiennent au SDED, d'accord, mais sont sous la responsabilité du distributeur. Et il faut savoir qu'en France, pour que les choses soient claires pour vos auditeurs, on n'a qu'un seul distributeur, hein, donc c'est Enedis. Et effectivement, on a une multitude aujourd'hui de fournisseurs. Hein, alors, le fournisseur historique d'électricité, ben, on le connaît très bien, c'est EDF. Mais il faut savoir que maintenant, vous avez Engie, Enercoop, Direct Energy, Mint Energy, etc., etc., etc. C'est-à-dire une multitude de. Il y a actuellement en France, il y a une vingtaine, pour pas dire une trentaine, de fournisseurs d'électricité différents. Hein, mais aujourd'hui, il faut savoir que l'activité de distribution, c'est une chose. Il n'y a qu'un seul distributeur en France, c'est Enedis. Sa fonction, c'est de permettre que l'électricité arrive dans les foyers, d'accord. C'est pas le transport de l'électricité, c'est la distribution d'électricité. Et puis l'autre domaine, c'est les fournisseurs, donc effectivement, qui eux ne font que vendre de l'électricité. Voilà.
Alors, pendant que j'y pense, parce que j'ai eu encore un exemple là tout à l'heure à ce sujet, souvent, ce qui peut se passer, c'est un dysfonctionnement sur un compteur actuel. Le compteur ne fonctionne plus ou autre. Et comme beaucoup de sujets, en général, ce qui est répondu de la part d'Enedis est totalement faux. Donc, en général, ils disent qu'il n'y a plus que des compteurs Linky. Donc si on doit remplacer un compteur défectueux, il n'y aura qu'un compteur Linky pour le remplacer. Donc c'est totalement faux. Hein. Voilà, donc comme beaucoup de mensonges autour de ce sujet, une fois de plus, c'en est un. Et la preuve en est que j'ai encore un exemple aujourd'hui de quelqu'un qui me disait « Eh bien moi, ça a été exactement ça qui s'est passé, mon compteur ne fonctionnait plus, on m'a dit « Non, nous n'avons plus d'ancien compteur, il a insisté « Je ne veux pas de Linky », « Non, nous n'avons pas d'ancien compteur, non, je ne veux pas de Linky » et finalement, ils ont fini par sortir de derrière les fagots un ancien compteur, un compteur actuel. Donc en fait, ils en ont encore. Hein. Donc c'est totalement faux quand ils disent qu'il n'y a plus que des compteurs Linky.
Je confirme effectivement ce que dit Messaline. Il faut savoir que, alors première chose, quand un distributeur vous dit qu'il n'a plus d'ancien compteur, c'est totalement faux. Puisqu'il se dépose dans le cadre du déploiement, une multitude de compteurs. Alors, dans les compteurs, on va faire le tri. Il y a les plus anciens des compteurs qui étaient existants, c'est les fameux, ce qu'on appelle les compteurs électromécaniques. C'est les compteurs où il y avait un disque qui tournait. Donc ça, c'est un compteur électromécanique. Ceux-là, effectivement, aujourd'hui, ils sont définitivement abandonnés. Par contre, avant le compteur Linky, il y a eu une génération de compteurs, hein, qui s'appelle le CBE, donc c'est les compteurs électroniques. Alors généralement, eux, ils n'ont pas de disque qui tourne, ils sont en général de couleur blanche, avec deux boutons bleus, hein, qui permettent le défilement à l'intérieur du compteur. Donc ces compteurs électroniques, ben effectivement, ils s'en déposent aujourd'hui. C'est-à-dire que même dans une résidence terminée depuis 2 ans, Si les sous-traitants viennent déployer le compteur Linky, on dépose des compteurs électroniques de 2 ans. Donc là, c'est pareil, il y a une gabegie environnementale, c'est-à-dire qu'on dépose des matériels qui fonctionnent très bien. Alors quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a la rage. Qu'on dise que les compteurs électromécaniques comptaient faux, etc. Bon, moi je veux bien, mais je le dis haut et fort, c'est faux. Il comptait très bien. Qu'on me dise qu'un compteur électronique qui a 2 ans, effectivement, doit être changé, effectivement, parce qu'il compte pas bien. Là, on en remet une couche et on s'inscrit dans le faux.
C'est du gaspillage et c'est vraiment tout encore dans cette espèce de faux débat de entre guillemets transition écologique, où la transition écologique, apparemment, selon notre gouvernement, ça serait jeter tout ce qu'on a à la poubelle et produire énormément de choses nouvelles qui seraient moins polluantes, sauf que la pollution commence d'abord par les déchets et d'abord par la surproduction de choses dont on n'a pas besoin puisque ça fonctionne.
Bien sûr. Et alors pour terminer sur les compteurs, alors au-delà du fait que effectivement Enedis dépose des anciens compteurs, alors pour rejoindre l'exemple qu'a donné Messaline, effectivement on peut très bien en remplacement de son ancien compteur défaillant demander un compteur électronique d'occasion. Moi ça me fait aucun problème, et il faut savoir qu'aujourd'hui c'est tout à fait possible pour Enedis. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'Enedis a fait fabriquer pour son propre compte le compteur Linky qu'il installe, dont acte. Et pour en terminer sur ce sujet, il faut savoir que industriellement, je dis bien industriellement, les compteurs électroniques sont toujours fabriqués. C'est-à-dire que Landis+Gyr, Sagem, j'en passe et des meilleurs, fabriquent toujours des compteurs électroniques. Si une personne va sur Internet ou voire même, parce qu'on va nous accuser d'aller sur le dark web et de récupérer des compteurs au cul du camion, moi je suis désolé, vous allez dans un magasin d'électricité, chez un fournisseur de matériel électrique, vous demandez un compteur électronique, il n'y a pas de problème, on vous le fournira, il n'y a aucun souci. Donc il faut savoir que les compteurs électroniques dernière génération avant le Linky compteur sont toujours fabriqués de manière industrielle. Voilà.
Sachant qu'il y a quand même un vide juridique sur le sujet par rapport justement aux dégâts sur la santé, puisqu'aujourd'hui il y a quand même des gens qui sont reconnus comme effectivement électrosensibles et ont eu des symptômes très graves impactant leur vie de tous les jours. Donc typiquement ces gens-là qui ont été reconnus médicalement, on leur installe des compteurs, les compteurs dont tu parles, les compteurs blancs. Et dans un deuxième temps, je réappuie sur cette histoire que vraiment aujourd'hui nous sommes face à des gens qui nous mentent. Qui nous mentent à ce sujet, qui nous mentent en nous disant que si on n'accepte pas le Linky chez nous, on va nous couper l'électricité, ce qui est clairement illégal. Nous sommes liés contractuellement, donc il est illégal de couper l'électricité à quelqu'un alors que vous payez. Vous avez votre facture qui tombe et vous payez. Deuxièmement, que ça va nous coûter plus cher si nous n'avons pas de Linky. C'est aujourd'hui, rien n'a été voté à ce sujet. Donc ça, je tiens à le dire aux auditeurs parce que c'est souvent qu'on nous pose la question. Il faut aussi qu'on vous dise que aujourd'hui, les relevés de compteurs, auxquels d'ailleurs je vous invite à être présent aujourd'hui, hein, parce que pour pas qu'on vous installe un Linky lors de ces relevés qui sont d'ailleurs prévenus en général sur vos factures, c'est indiqué toutes vos factures chaque mois ou bimensuel. Vous avez à un endroit un encadré qui vous indique la date où le relevé sera fait. Et ces relevés sont déjà compris dans vos factures. C'est la TURP, c'est le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité. Donc vous le payez déjà. Donc, en fait, tous ces mensonges qui s'accumulent de part et d'autre, c'est incroyable. Et donc, du coup, on est obligé, nous, de faire de la transmission d'informations publiques face à des grosses boîtes qui sont en droit de mentir à la population en permanence, en faisant des menaces, en installant de la peur, voilà, pour nous imposer un matériel dont on ne veut pas, j'en profite quand même pour dire des choses de base, parce qu'on est, c'est quand même des compteurs qui créent des incendies. Il y a eu beaucoup d'incendies constatés en France et encore il n'y a pas très longtemps. Voilà, des incendies au niveau du logement, des incendies au niveau des installations, des appareils électriques, voilà. Ça peut effectivement créer des problèmes pour la santé, donc. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est quand même, parlons-en, parce que moi j'ai quand même eu l'exemple il n'y a pas très longtemps dans la rue de quelqu'un qui me disait « Non mais il faut arrêter la conspiration, des relevés d'informations sur nos vies privées, non mais il faut arrêter la fumette ». Non mais en fait là c'est pas du complotisme ce que je vous raconte, c'est pas de la conspiration, ça fait partie du projet, c'est officiel. Donc les gens sont sous-informés. Voilà, donc là vraiment c'est pour ça qu'on fait une interview, d'ailleurs c'est pour passer des infos comme ça. Les récoltes d'informations sur la vie privée, ça fait partie du projet, c'est complètement officiel, hein. Il y a rien de du luberlu là-dedans.
Pascal.
Je confirme ce que dit Messaline sur l'objectif, on va dire, masqué des compteurs Linky. Alors nous on l'appelle pas compteur, on l'appelle capteur Linky, hein, pour rejoindre sur le sujet des données. Certes, le compteur Linky, effectivement, mémorise les index et les télétransmet, d'accord, via le CPL dont on a parlé tout à l'heure. Mais effectivement, il est en capacité de récupérer beaucoup plus d'informations que les données de comptage. C'est-à-dire qu'il va récupérer les habitudes, enfin, il peut donner des informations sur vos habitudes de vie. Je me lève à telle heure, etc. Il faut savoir que ça, aujourd'hui, ça s'appelle de la data. Hein. Donc la data, c'est le terme anglais qui veut dire données. Et d'ailleurs, Monsieur Montlobou, président du directoire d'Enedis, devant la Chambre économique du Sénat, lorsqu'il a présenté le projet Linky, c'est pas gêné pour dire aux sénateurs présents, Enedis avec le compteur Linky est à la tête d'un marché de big data. Donc il faut qu'on arrête effectivement, comme dit Messaline, de dire que le compteur ne fait que récupérer les données de comptage, hein, la consommation d'électricité, non, ça irait plus loin. Il faut savoir qu'il y a de la technologie embarquée dans le compteur Linky. Il faut savoir qu'il est doté du protocole IP, c'est-à-dire Internet Protocole, qui va permettre effectivement de communiquer aussi avec nos électroménagers. Donc là, je vous dirige tout droit vers l'obsolescence programmée. Hein, il n'y aura plus besoin de mettre des horloges. On sait que ça existe déjà, mais on pourra piloter, entre guillemets, vos appareils à distance. Alors effectivement, les avantages, dans quelques mois, parce que ça va très vite, hein, je vous cache pas, on vous dira, mais vous inquiétez pas, on va vous faire une analyse de votre frigo, il est en panne, on va savoir effectivement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, donc toutes ces technologies là aussi s'inscrivent dans la migration qu'on est en train de vivre, hein, sur un monde interconnecté, hein, sur un monde hyper connecté. Le compteur Linky et les compteurs intelligents, hein, puisque intelligent, en anglais, ça veut dire intelligence, ça veut dire espionnage, d'accord? Et tout ce qui est, tout appareil ou tout compteur intelligent a la capacité de récupérer de la donnée, etc. Et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc, il faut que vos auditeurs le sachent, d'accord? Et effectivement, les compteurs communicants font partie du squelette qui va être, on va dire, de ce nouveau monde, hein, qu'on veut nous imposer, bien évidemment, à coup de désinformation, hein, ou de non-information. Ça, il faut en être certain. et qui va être effectivement relié à ce qu'on appelle la 5G et notamment l'Internet des objets. Alors je fais une très rapide ouverture sur la 5G. La 5G, il faut dire à vos auditeurs que ce n'est pas une technologie de téléphonie mobile qui va permettre avec vos portables de télécharger plus vite, etc. Oui, effectivement, il y a une partie des bandes de fréquence qui ont été mises aux enchères, enfin qui ont été bradées il y a deux semaines de cela auprès des opérateurs. Ça, on va dire, c'est la bande des 3,4, 3,7 gigahertz, ok, ça concerne la téléphonie mobile. Mais ce qu'on ne dit pas aux gens aujourd'hui, c'est que dans la 5G, il y a la bande des 26 gigas. Les 26 gigahertz, effectivement, c'est l'Internet des objets, voilà. Et c'est là où vous faites le lien avec les compteurs communicants, les téléviseurs qui communiquent, les machins, etc., etc. L'Internet des objets, c'est ce qui va permettre globalement le vœu de nos dirigeants, c'est de pouvoir connecter plus d'un million d'objets au kilomètre carré. Voilà. Donc là, effectivement, on arrive dans un monde, effectivement, où tout va être numérique.
Et on est en droit de se poser la question de si à distance on peut contrôler ces objets, si le jour où on a besoin de faire des économies d'électricité ou de couper l'électricité de chez quelqu'un ou de lui diminuer son électricité parce que potentiellement il n'a pas payé sa facture, ou on est en droit de se poser quel pouvoir ils auront sur nous et sur chez nous et notre consommation. Et aussi, on est en droit de se poser la question par rapport aux aides, par exemple, etc., où de loin, on pourra être au courant que vous êtes censé vivre seul et les heures où vous travaillez, l'électricité fonctionne encore chez vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui vivent chez vous alors qu'elles n'ont pas été déclarées. Et donc, ça en implique énormément, énormément aussi de questions à l'avenir qu'il faut se poser, parce qu'effectivement, quand les gens ont un regard sur ce qui se passe à l'intérieur de chez vous, eh bien, et qui ont un pouvoir d'action, qu'est-ce que ces gouvernements, qui là on est sous un régime de plus en plus totalitaire, seront capables de... Voilà, le pouvoir sera plus grand. Et c'est pas forcément toujours bon.
Je confirme le pouvoir plus grand pour rebondir aussi sur l'aspect qu'évoquait Messaline. Le compteur Linky permet effectivement un pilotage à distance de « je te donne de l'électricité ou je ne t'en donne pas je peux faire du délestage ». C'est-à-dire qu'il y a des moments de la journée où, sans spécialement te prévenir, je vais couper la puissance pour favoriser une autre région. Alors, techniquement, effectivement...
Ou une autre entreprise.
Ou une entreprise.
Voilà, admettons, nous avons...
Entre le domestique, je termine, après je te redonne la parole. Pardon. Entre le domestique et l'économique, on voit bien aujourd'hui que c'est l'économique qui est mis en avant. C'est sûr que quand on déleste, on va délester l'usager lambda qui va malheureusement, par perte de puissance, plus pouvoir se chauffer chez lui. D'accord. Alors le délestage, ça dure pas deux heures, mais c'est un délestage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, chez vous, vous ne pouvez utiliser que les ampoules, le frigo et le machin. Si vous avez un chauffage électrique, c'est mort. Ça ne fonctionne pas. C'est ça, les opérations de délestage. Et après, ce qui est compliqué aussi avec ces compteurs-là, il faut savoir qu'ils sont ces capteurs-là. Donc, je parle du Linky et puis de l'Aquarius pour l'eau et du Gaspar pour le gaz. Ils sont upgradables à distance. Ça veut dire quoi, upgradable? C'est-à-dire qu'on peut... modifier des paramètres de la machine à distance par le simple fait de l'opérateur qui, en l'occurrence de l'électricité, sera Enedis. Donc c'est quand même relativement grave. Et que dans tout ça, il faut savoir qu'il n'y a plus d'humanité. On parlait des coupures, effectivement, quand on aura appuyé sur le bouton et qu'on vous aura coupé l'électricité, effectivement, ça sera coupé. À vous de vous battre contre le pot de fer. Jusqu'à présent, quand il y avait une coupure d'électricité, il y a un technicien qui venait. Bon, s'il voyait une femme avec des bébés, des enfants, des trucs comme ça, bon, ben, il disait, bon, allez, je vous donne un petit délai. Il coupait pas. Là, aujourd'hui, c'est la génération bouton. On appuie, ça coupe. Et après, débrouille-toi. Donc, ça aussi, c'est grave. Et c'est une déshumanisation totale de la société. Voilà.
L'émission s'approche de la fin. Pascal Laurent, je vous remercie en tout cas d'être intervenu sur cette émission. Vous êtes de quel type de profession concernant l'électricité ?
Alors moi, je suis. Alors, si j'interviens aujourd'hui, hein, c'est surtout, je l'ai précisé, en tant que porte-parole de Stop Link Hydro Mardèche. Hein, nous soutenons effectivement le collectif qui s'est recréé sur DI. Je tiens à la disposition effectivement de vos auditeurs, mais je sais que localement ils auront des bons relais. Mais s'il y a des questions qui viennent, il faut pas qu'ils hésitent à nous appeler. Alors on donnera peut-être en antenne les coordonnées de l'association, une adresse mail et deux numéros de téléphone auxquels les gens peuvent nous appeler. On répond. Pour revenir effectivement à ma profession, je suis bioélectricien et auditeur conseil en pollution électromagnétique du bâtiment. Donc voilà, je travaille dans l'électricité et je travaille aussi sur les problématiques évoquées Messaline tout à l'heure. Hein, c'est l'impact des pollutions environnementales liées à l'augmentation des pollutions électromagnétiques, quelles qu'elles soient. Là, on en a une avec le Linky, avec le CPL, hein, une nouvelle. Hein, donc, il y a un effet cocktail, il y a des choses qui se rajoutent. On va en avoir très prochainement avec, si on ne fait rien, avec le déploiement de la 5G, de ces nouvelles technologies, avec l'Internet des objets, etc., etc. Et effectivement, comme l'a souligné Messaline, il y a des problématiques maintenant, de plus en plus, qui se réveillent et qui sont reconnues, même par l'ANSES. Hein, effectivement, l'ANSES reconnaît qu'il y aurait en France 5% de la population qui soit électrosensible. Donc, on est dans une pollution environnementale et il faut aussi que les gens, au-delà de l'aspect liberté, etc., c'est un ensemble. Hein, et cet ensemble, effectivement, c'est un monde de demain un peu bizarroïde qu'on nous propose. Et donc, je vous cache pas, je ne veux pas, et il faut bien que les gens en aient conscience. Après, il sera trop tard pour se réveiller. Voilà.
Merci Pascal. Messaline, un dernier mot
Bah, peut-être.
Laïda aussi.
Comme tu veux. Alors, déjà, on va peut-être quand même finir avec les points clairs. Un, vous refusez le Linky, une lettre recommandée avec accusé de réception envoyée dans une fenêtre à Enedis. Je donne l'adresse. Donc, par exemple, pour les gens du DIWA, c'est Enedis, support client Linky, acheminement 288 rue Duguay-Clin, 69003 Lyon. Je vous invite à retrouver les modèles de lettres. Vous avez le site
infolinkydi.webnote.fr.
Et ne pas, il faut poser un mot sur notre compteur pour... voilà, pour avertir qu'on refuse et que c'est si on touche à notre compteur, il y a des poursuites judiciaires.
Est-ce que je peux juste rajouter que si des personnes comme moi ont envie de faire mobiliser ses voisins, ben on a des documents, une table et puis plein de à répondre à plein de petits détails pour fermer le compteur.
Et voilà. Pour vous joindre ou communiquer avec vous, et il y a ces deux numéros de téléphone que l'on donnera sur le site, je pense.
Alors ça, c'est les numéros de téléphone effectivement de Pascal et d'une autre personne de Stop Linky Dromardèche, qui sont spécialistes sur le sujet. Vous pouvez les appeler effectivement.
Et Laïda, quels sont les moyens de communiquer ou de vous joindre ?
Eh ben, pour ceux qui savent où je suis au 17 rue Émile Laurent. Mon numéro, c'est 06 01 23 46 39. Ou sinon, il y a aussi un point info sur le marché qui va se faire. Et puis, parce que moi, j'ai eu contact beaucoup avec Pascal. Donc, c'est pour ça que, comme j'ai des infos déjà qu'il m'a transmises, passons le relais entre nous d'un immeuble à l'autre, chaleureusement, quoi.
Voilà, eh bien, Messaline, Laïda et Pascal, je vous remercie tous les trois de nous avoir donné un peu de votre temps pour contrer ces compteurs Linky de nouveau. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.
Au revoir.
Salut.
Au revoir.
Hey, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.